plugin. Plongez-vous dans les courants qui ont marqué l'histoire, l'actualité du monde, les petites anecdotes ou bien encore l'air du temps.
Ok.
At the same time, excellent plugin for you.
Je m'appelle Simon Hankinson, je suis le consul général des États-Unis à Marseille.
Robert Mecherini, je suis professeur honoraire des universités en histoire contemporaine.
Bonjour, je m'appelle Ali Bougueraba, je suis comédien, metteur en scène et auteur.
Mathieu Verdeil, réalisateur du film Marseille et les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale pour Plugin.
This is the documentary film Marseille and the Americans, directed by Mathieu Verdeil on Plugin Radio.
Un truc de fou, quoi.
Plugin.
Bonjour, plugin spécial documentaire pédagogique Marseille et les Américains 1939-1945. 2020 est l'année du 75e anniversaire de la victoire des Alliés. Le consulat général des États-Unis à Marseille et le réseau Canopé, centre national de documentation pédagogique du ministère de l'Éducation nationale, s'associent pour proposer au personnel de recherche et de formation, aux enseignants du second degré et professeurs documentalistes, un outil pédagogique historique inédit. Le documentaire Marseille et les Américains 1939-1945, réalisé par Mathieu Verdeil pour Asset Productions, rappelle la vie quotidienne et culturelle des Marseillais pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, un récit historique teinté d'humour, raconté par ceux qui l'ont vécu et qui ont côtoyé civils et militaires américains dans la région de Marseille. Il rassemble des images d'archives, des cartes et des animations graphiques, pour la plupart inédites. Conçu spécialement pour un public de collégiens et lycéens, ce film est construit en 4 fois 15 minutes pour être utilisé en fonction des programmes scolaires. Simon Hankinson, consul général des États-Unis à Marseille, Robert Mecherini, professeur des universités en histoire contemporaine, le comédien Ali Bougueraba, directeur du café-théâtre L'Antidote, et le réalisateur Mathieu Verdeil, présente le film Marseille et les Américains 1939-1945 dans Plugin. Bonne écoute.
Je m'appelle Mathieu Verdeil et je suis le réalisateur de ce film Marseille et les Américains.
Quand on voit le film en 4 parties, ce film il dure à peu près 1 heure. D'où vient l'idée de faire un film sur Marseille et les Américains ?
Alors cette idée, elle vient directement de Simon Hankinson, qui était le consul américain de Marseille depuis 3 ans, et qui cette année 2020 était sa dernière année, et voilà, il quitte Marseille pour d'autres destinations. Comme il aime l'histoire, il avait envie de laisser une trace de ce moment de la guerre, qui est un moment particulier où les Américains ont vraiment eu une importance cruciale pour toute l'Europe, hein, il faut clairement le dire. Grâce aux États-Unis, le nazisme a été vaincu. Donc bien que je pense à la résistance française et à l'armée française et à De Gaulle, hein, qui ont fait un petit peu des choses, mais sans les Américains, c'eût été compliqué.
Vous allez entendre un message du président Roosevelt en personne.
Mes amis qui souffrent sous le joug accablant des nazis, nous arrivons parmi vous pour écraser et pour anéantir les envahisseurs cruels qui voudraient vous dépouiller.
Je m'appelle Simon Hankinson, je suis le consul général des États-Unis à Marseille. Nous avons déplacé le consulat plusieurs fois depuis l'établissement en 1790. Je crois que c'est le 4e plus ancien consulat des États-Unis dans le monde entier. Alors on est là depuis très très longtemps, on a une histoire avec Marseille.
Marseille et les Américains, votre participation est importante puisque c'est vous qui avez commandé ce film.
En effet, j'étais le executive producer, j'ai eu l'idée. Mathieu a travaillé avec Robert et ils ont créé quelque chose qui a beaucoup excédé nos espérances.
À l'arrivée, ça donne un film pédagogique.
En effet, c'était toujours ciblé pour les élèves dans les écoles comme un outil pour les diplomates américains d'approcher les jeunes et de leur montrer que leur histoire est beaucoup plus intéressante et plus proche qu'ils imaginaient. Moi, j'ai fait mes études en histoire. J'ai lu pas mal de livres, mais c'est un sujet que j'ai jamais vu. Aussi, on parle beaucoup des troupes qui ont libéré Marseille. Étaient des troupes sénégalais, camerounais, algériens, de tout l'empire, ancien empire français. Et le fait que l'armée américaine à cette époque avait beaucoup d'Africains américains qui travaillaient, qui faisaient beaucoup de choses, mais qui étaient ségrégés. Et c'est pour la jeunesse peut-être très difficile de comprendre comment les États-Unis ont évolué. Parce que vraiment, aujourd'hui, on peut dire être pessimiste, qu'on est nul, on est dans une situation très difficile, mais si vous voyez le progrès qu'on a fait pendant 75 ans, c'est vraiment quelque chose.
Il y a des projections à la rentrée dans les écoles. Il y a peut-être une prolongation au cinéma. Il y a peut-être quelque chose qui peut atterrir à Hollywood.
En effet, parce que c'est subventionné par le gouvernement. Le but, c'est éducatif et pas de faire un profit comme un outil pour être utilisé par des profs d'anglais, peut-être des profs de français aussi, parce qu'on a une version française et c'est plus ciblé pour les jeunes. La version anglais, c'est plus peut-être pour les personnes un peu plus âgées.
On a vu Ali qui a fait la version française. C'est vous qui faites la voix de la version anglaise, on va dire.
Faute de mieux, faut dire, parce que Ali, c'est un professionnel et moi, je suis tellement amateur. Mais oui, on a fait une version anglaise et j'ai fait la narration. Oui.
Merci beaucoup.
De rien. C'est ma page.
Quand on écoute Simon, qui a fait aussi les voix pour la version anglaise, il nous dit qu'il a aussi, lui, découvert une partie de l'histoire de l'Amérique.
Effectivement, Simon, au moment où il a l'idée de ce film, il pense tout de suite à un public de jeunes. Et lui, ce qu'il a envie, c'est de casser l'image actuelle des États-Unis. C'est-à-dire qu'on espère que l'humanité va changer de direction. Donc, en tant qu'amateur d'histoire, ce qui l'a intéressé, c'était de mettre en avant les liens culturels et sociaux qui sont nés de ce passage des Américains dans la région. Même si on va découvrir à travers le film que les Américains avaient quand même des arrière-pensées hégémoniques, impérialistes et capitalistes, malgré tout ça, les Américains ont été importants. On oublie l'origine, mais aujourd'hui, avec, on va dire, par exemple, hip-hop et IAM, le skateboard ou encore le baseball, il y a un club de baseball à Marseille qui s'appelle les Meds. Tout ça, ça vient directement de 1945, c'est-à-dire la guerre, ça a permis de laisser des traces sociales et culturelles dans l'histoire marseillaise de l'amitié entre les peuples français et américains.
Le 15 août 1944 commence l'opération Dragoon, le débarquement de Provence.
Les Américains, c'était les libérateurs, donc les gens étaient très 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 chaleureux.
Les troupes françaises, qui comprennent des unités venues de toute l'Afrique, vont libérer Toulon et Marseille. Ces deux ports sont stratégiques.
C'est un film pédagogique. Donc cette vocation pédagogique, elle vous a obligé à faire appel aussi à des spécialistes, d'où des historiens, puisque Simon est aussi historien, mais aussi un historien particulièrement, Robert Manchirini, qui lui, plutôt que de la partie culturelle, lui revient sur l'histoire.
Oui, à la base, c'était vraiment un film sérieux. Et un film sérieux se fait avec un historien sérieux. Il y en a d'autres, d'historiens qui connaissent cette période et qui en parlent très bien. Robert Manchirini, lui, est spécialiste notamment des mouvements de gauche, des mouvements ouvriers, sur la Deuxième Guerre mondiale, de la résistance à Marseille et dans la région.
Robert Manchirini, je suis professeur honoraire des universités en histoire contemporaine. Je suis spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, la résistance, Vichy, les mouvements sociaux en France. Je préside un musée de la résistance en ligne en PACA. En abrégé, c'est Murel.
On vient de voir le film Marseille et les Américains, c'est le bon titre. Vous avez largement participé, vous avez même été co-auteur du film. Quand on vous l'a proposé, la première idée qui vous est venue en tête?
D'abord, c'était intéressant. Parce que c'est une histoire qui est peu étudiée. On commence maintenant, depuis une vingtaine d'années, à parler du rôle des Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale avant le débarquement, de parler aussi de la période d'après le débarquement avec les camps de Calais.
Il y a tout ce mélange entre culture américaine et culture marseillaise qui cohabite.
Oui, c'est ce qui est impressionnant. C'est-à-dire il y a à la fois la présence militaire américaine, les problèmes politiques que ça pose et l'importance de la culture américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale comme symbole de liberté. Il y a toute une symbolique de la culture américaine qui est énorme. Sartre et Simone de Beauvoir passent la ligne de démarcation dans l'occupation de la zone sud et ils passent leur journée à Marseille à regarder des films américains. Bon, deux grands philosophes quand même.
Après, dans chaque partie du film, on peut approfondir. Ça va être les professeurs avec les jeunes, peut-être dans les écoles ou universités. Et ce film, il est justement fait pour ça.
Bien sûr, chaque partie peut avoir un prolongement.
Qu'est-ce qu'on peut retenir comme image marquante du film? Nous, on fait de la radio. Quelle image on peut décrire comme ça pour l'auditeur?
Il y a une par partie d'images marquantes. La première partie, ça peut être sur la résistance d'aide de sauvetage par les Américains, qui joue un rôle absolument essentiel, à la fois dans le sauvetage des enfants, le sauvetage des persécutés. Donc ils sont présents au camp des Milles, ils arrivent à faire évader des gens.
Parmi elles, on trouve des associations juives et des organisations américaines comme les Quakers ou la Young Men's Christian Association, plus connue sous le nom de YMCA.
Et tout ça, ça constitue un milieu favorable au sauvetage des persécutés. Par exemple, pour le sauvetage des réfugiés, c'est la queue devant le consulat américain qui est au niveau du lycée Mangan. C'est une image qui est frappante. Tous les consulats font des faux papiers à ce moment-là.
Place Félix Barré devant la préfecture, une foule de candidats à l'exil se presse chaque jour devant le consulat américain, l'actuel lycée Mangan, en espérant obtenir des visas.
Une autre partie, c'est sur l'engagement des Américains dans la résistance organisée.
On peut parler de la Villa Herbel avec Fry. Permettre à des gens de la culture et des penseurs français d'échapper au nazisme en passant par cette villa, c'était aussi une histoire importante de cette période.
En août 1940, un jeune Américain est envoyé à Marseille avec le soutien d'Eleanor Roosevelt, la femme du président américain. Son nom, Varian Fry. Il crée le comité américain de secours, entouré par une équipe intrépide qui opère dans un premier temps depuis une chambre de l'hôtel Splendide, proche de la gare Saint-Charles.
Bien sûr, alors la Villa Herbel combinée avec la présence de Varian Fry, qui est mandaté en France pour faire échapper les artistes intellectuels. Donc ça, c'est très important. J'ai énormément contribué au fait qu'on le fasse ressortir de l'oubli, parce qu'on a fait un colloque il y a 20 ans maintenant. Il n'y avait pas de grand événement autour de Fry. Jusque-là, on n'en parlait pas. Depuis, j'ai découvert qu'il y a bien d'autres organisations américaines qui sont présentes. À Signes, il y a un Américain qui s'appelle Mutular Derekald, qui est un officier américain qui va être envoyé en France et qui va être fusillé à Signes. Donc là aussi, il y a l'aide américaine à la résistance.
Avec la formation, l'acheminement de matériel, etc.
Ah oui, oui, tout à fait. Toutes les organisations, tous les réseaux en profitent. Alors, directement ou indirectement, de l'aide américaine. Enfin, j'ai écrit des choses assez détaillées là-dessus. Puis vous avez aussi ensuite le débarquement lui-même. Alors très important, il faut lire Eisenhower où il dit « La prise du port de Marseille, c'est fondamental. » Parce que les troupes qui arrivent de Normandie sont bloquées. Donc c'est un enjeu militaire stratégique. Ensuite, l'après-guerre, c'est le camp de Calas.
Entre Aix-en-Provence et l'étang d'Omer, là où se trouve aujourd'hui la gare TGV, on dirait un peu le Far West, non? Ça s'appelle le plateau de l'Arbois. « Yes, bro, an American city !» Hallucinant, non? Une ville éphémère qui a vu passer plus de 2 millions d'Américains. Incredible! Un truc de fou, quoi.
C'était une ville de tente, c'était pas bétonné, et ça s'étendait sur une zone immense. Je pense qu'à Calas, il y avait 300 habitants, et que là, ils sont arrivés jusqu'à 100 000. C'est démesuré.
C'est une véritable prouesse technique et humaine. Vous imaginez? 100 000 hommes? Oh, fatch! 5500 tentes sont réparties en 10 quartiers. Puis 1300 bâtiments préfabriqués seront construits pour les plus chanceux. Il y a des cantines, des sanitaires, des infirmeries, un hôpital, des lieux de culte, des bureaux de poste, des magasins, des parkings, de nombreux espaces de repos et de divertissement. Et pour relier tout ça, un vaste réseau de routes et de canalisations. Et même un parc d'attractions. Nah, je rigole.
Ces photos, on voit des alignements de tanks, de blindés, de camions, des foules immenses qui assistent à des spectacles. Voilà, Delta Force, qui est à Calas, mais qui s'étend à l'ensemble de la Provence. Plus le jazz ou le baseball.
Ou le baseball, ouais. Tous ces gens qui interviennent dans le film, ils sont importants parce qu'ils apportent la mémoire.
Bien sûr, ils sont très jeunes, ils racontent ce qu'ils ont vu. Donc c'est important parce que c'est la mémoire.
Merci beaucoup.
Oh ben, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
Donc, c'était notre référent historique, Robert Mancherini, c'était le maître d'histoire. Et moi, j'étais plus celui qui allait mettre cette histoire en forme, sachant que quand Simon a dit que ce film s'adressait aux jeunes, on doit réveiller la mémoire. Donc, aujourd'hui, comment les jeunes appréhendent la vidéo? Effectivement, la manière de diffuser les informations évolue beaucoup. C'est intéressant de regarder YouTube ou de regarder Arte. Ils ont beaucoup d'émissions destinées aussi aux jeunes et qui sont très bien faites. Et donc, j'ai voulu partir sur une forme qui capte l'attention des jeunes et donc, en termes de flux de parole, de rapidité d'image. Et pour les intéresser, j'ai tout de suite eu envie de créer un style décalé, jeune, humoristique, qui tente d'accrocher un public très large. pour cela, j'ai tout de suite pensé à faire appel à Ali Bougueraba, qui fait du stand-up, qui est un humoriste, qui a fait plusieurs spectacles, dont l'Odyssée de la moustache, et qui a fait aussi des pièces de théâtre, des biographies d'artistes marseillais importants, notamment René Sarville, et récemment, il a fait une pièce sur la vie de Yves Montand, qui a même obtenu un Molière. Ali, c'est aussi le directeur du théâtre de l'Antidote, qui est boulevard de la Blancarde, et qui a une très bonne programmation.
Ce que je te propose, c'est qu'on écoute Ali, qui réagit en tant que narrateur du film. Il nous raconte pourquoi il s'est impliqué dans le film en tant que Marseillais.
Et du côté de Marseille, comment ça se passe? C'est ce que nous allons voir ensemble. Avant l'armistice, pendant la drôle de guerre, quelques humoristes avaient essayé de garder un esprit rebelle et fanfaron.
Si mon cul avait des moustaches, il aurait l'air d'Adolf Hitler.
Ceux qui connaissent la suite, merci de ne pas spoiler.
Bonjour, je m'appelle Ali Bougueraba, je suis comédien, metteur en scène et auteur.
Alors, les Américains à Marseille, hein, il y a tout l'historique du film, on en parle avec Mathieu. Cette relation entre l'Amérique et Marseille, puisque tu es Marseillais.
Ben moi, écoutez, j'avais que le côté historique, ce que j'ai appris au collège et au lycée. Moi, j'ai le souvenir aussi de tous ces Américains qui débarquaient, qui nous offraient des casquettes, qui donnaient des mixtapes.
Des hippos,
exactement. Bon, mon frère a fait des soirées hip-hop à Marseille. L'été, c'était que des Américains qui étaient à l'intérieur. Étant un port, les mecs qui débarquent, oui, on les a toujours connus, on les a toujours vus ici, on les a toujours côtoyés.
Revenons quelques années en arrière. Back in the time. Oui, on en profite pour réviser l'anglais.
Au début, quand on m'a parlé du projet, je me disais, putain, les Américains, la propagande, l'impérialisme, libéralisme, capitalisme, tout ça. Et en même temps, j'ai des Nike, j'ai une casquette, je contribue à ça. Mais c'est un documentaire qui est super bien fait parce qu'il ne brosse pas dans le sens du poil. C'est pas de la propagande, c'est juste, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on occulte tout le reste et on parle de culture. Et là, c'est très intéressant. Et là, c'est le Marseillais qui parle. Ce que je trouve sympa dans ce documentaire, c'est que tous les petits jeunes vont pouvoir se réapproprier la ville en se disant « Putain, dans cette rue, il y a eu ça, il y a eu ces gens-là, il y a eu cette histoire. Là, dans mon lycée, il s'est passé ça. » Pour moi, c'est d'une richesse extraordinaire parce qu'on va retrouver notre Marseille à nous et on va devenir vraiment Marseillais. C'est-à-dire que quand je dis « redevenir Marseillais », c'est quand je vois les images. Au-delà des Américains, comme je disais tout à l'heure, il y a des Marocains, il y a des Sénégalais, il y a des Algériens, il y a des Français, des Provençaux, il y a des Juifs, il y a tout le monde qui a œuvré dans cette libération. Et on se dit, putain, ça fait partie de notre histoire commune à tous.
Mais c'était ce jour-là. Ils sont rentrés dans Marseille par ce boulevard qui s'appelle depuis Boulevard de la Libération. Et on voit une colonne de blindés. Ouf, ça y est, ils sont arrivés.
Le 25 août, les blindés et les tirailleurs algériens montent à l'assaut de Notre-Dame-de-la-Garde et la libèrent.
Et même les Américains, quand vous regardez les images, c'est pas le grand blond aux yeux bleus, c'est pas Clark Gable. On voit des Mexicains, on voit des Blacks.
Il y avait ce fameux camp des Noirs qui était donc séparé des Blancs. Et ils étaient plus sympathiques finalement avec ma famille quand ils venaient donc au bar.
Et dans l'histoire aujourd'hui, ça résonne un petit peu.
Alors justement, toi, tu as fait la voix off, tu l'as imaginé proche de la jeunesse, en y mettant des mots marseillais, mais en y mettant aussi des expressions actuelles.
Au début, on a essayé de faire un documentaire donc avec une voix très neutre, et après on s'est dit, on est des Marseillais, qui racontons l'histoire de Marseille. On a parlé comme si on parlait à des jeunes, à des amis, à des potes. Et un jeune, j'allais dire, qui a du mal à se positionner par rapport à sa culture, par rapport à ses origines, je trouve que ça peut faire du bien.
Eh ouais, à Marseille, on craint des gueules.
Fier d'être Marseillais, là, ça résonne encore plus.
Merci beaucoup.
Bah de rien, merci à vous.
Donc on vient d'écouter Ali, quand on l'écoute, il est partisan d'une transmission de l'histoire ludique et énergique.
Alors oui, vraiment, c'est pour ça que j'ai eu envie de travailler avec lui, c'est quand on découvre la vie d'un personnage, on découvre toute une tranche d'histoire aussi, et il la transmet très bien, c'est-à-dire qu'on rigole, et on apprend le contexte historique, donc c'est très intéressant.
Un des commentaires qui t'a marqué, que Ali a pu faire, qui illustre un petit peu ton propos?
Ce qui a aussi déclenché cette écriture, c'est que quand on parlait au début, il m'a fait « bon allez, on fera ce projet, Inch'Allah », comme on dit dans le New Jersey. Alors ça m'a fait mourir de rire. Donc je voulais vraiment le placer dans le film. Après on s'est dit, ben tiens, on pourrait aller plus loin et donner ce caractère humoristique à plein de moments. Et donc dans le film, ça s'est retrouvé Inch'Allah, comme on dit au Texas.
Et ceux qui ont terminé leur mission ont l'espoir de rentrer chez eux. Enfin, Inch'Allah, comme on dit au Texas.
Et vraiment, je trouve que l'opposition, quand on connaît les gens du Texas, mais dans le film, on dit c'est le why.
Oh, ils ont mis le why
sur ma vie, ils ont flingué le vieux port. Salam alaikum. Quand le général de Gaulle s'installe en Algérie avant le débarquement de Provence, on les accueille avec un salam alaikum qui est répondu par hamdoulilah bro, quoi. Donc on voulait mélanger l'américain, l'arabe, le marseillais. En fait, c'est un film destiné aux scolaires. D'ailleurs, le film est monté comme un livre d'histoire animée. Il y a des cartes animées, il y a des frises chronologiques, des focus sur des personnes en particulier. On donne la trame historique, internationale, nationale, locale. Donc c'est un livre d'histoire avec tous ses paragraphes et tous ses chapitres. Ali, c'est le prof d'histoire. Donc il est assez sérieux, il donne un commentaire. Mais comme il cherche à capter l'attention de l'élève qui est au fond de la classe, qui peut-être a envie de décrocher, hop, il enquille avec une petite touche d'humour, une petite expression rigolote.
Dans le film, il y a aussi les gens qui l'ont vécu, qui avaient entre 10 et 14 ans pendant la guerre, pour les plus anciens dans le film, qui interviennent.
Alors, Georges Aillot, Jean Contrucci, des gens du village de Calas, monsieur et madame Pontieu, deux frères et sœurs qui habitaient rue de la République et qui ont vu les débarquements américains massifs sur le Vieux-Port. Robert Pettinelli, par exemple, qui est devenu après, grâce à cette culture américaine, un très grand jazzman qui a amené le bebop en France, vraiment quelqu'un d'important. Lui, il avait donc 14 ans quand les Allemands sont arrivés. Il était sur la Canebière, il le raconte, il a vu les chars arriver. Quand deux ans après, il y a eu le bombardement américain, il était au lycée Thiers et il est même allé aider à déterrer les cadavres et à sauver les rescapés.
Moi, j'avais 16 ou 17 ans à l'époque. On nous demande si on veut bien aider à aller aux endroits qui ont été atteints par les bombes. Pour essayer de voir s'il n'y avait pas quelqu'un là-dessous, vivant ou mort.
Donc il a vraiment vécu cette histoire. Et après, c'est devenu un jazzman parce que pendant la guerre, avec son cousin et avec d'autres gens, tous les amateurs de jazz se retrouvaient dans des caves, écoutaient des disques, alors que c'était complètement interdit par la Gestapo et par la milice française. Donc il a découvert le jazz pendant la guerre dans des caves.
C'était vraiment une période difficile.
Au point de vue musical, on pouvait écouter Wagner, mais on ne pouvait pas écouter Duke Ellington.
Les amateurs de jazz se réunissent clandestinement pour faire vivre leur passion.
Mon cousin qui m'a fait découvrir le jazz m'a fait écouter des disques d'Armstrong, Ellington.
Et après, à la fin de la guerre, en autodidacte, il a appris le saxo. Et 4 ans plus tard, il jouait en première partie de Charlie Parker, qui a amené le bebop en France, qui dès la libération a conquis l'Europe, qui était une nouvelle forme de jazz.
Dans le film, il y a des choses qu'on connaissait de loin ou qu'on ne connaissait pas. Il y a eu le camp d'Émile avec la déportation, etc. Notamment, on découvre que le camp de Calas à la libération, c'était le camp américain.
Oui, voilà, les deux premières parties sont très didactiques, scolaires et racontent quelque chose qui est déjà connu. Il y a eu beaucoup de films, beaucoup de livres sur la libération de Marseille.
Par une des fentes du clocher, on va sortir un drapeau tricolore qu'on n'avait pas revu depuis 1940. Et les gens qui étaient là disent, on aurait dit le moment où l'avant-centre de l'OM marque le but, quoi, parce que toute la ville s'est mise à hurler en voyant la bonne mère. Et c'est fini dans une ville en liesse où tout le monde danse, où tout le monde s'embrasse.
Waouh, plus fort que l'OM.
Par contre, ce qu'on a découvert dans nos recherches, qui est extraordinaire, et c'est pour ça qu'on a fait finalement un film beaucoup plus long que prévu, c'est que Marseille a été une base arrière américaine, et Roosevelt a décrété que le port de Marseille était idéal, et toute la Provence comme une base arrière logistique de l'armée américaine. Ce qui fait que c'est ça qu'on a oublié, c'est que fin 1944 et tout 1945, des centaines de milliers d'Américains ont débarqué via le port de Marseille, le vieux port directement ou le port de la Joliette.
Le 29 août, les troupes victorieuses défilent sur la Canebière et le Vieux-Port, acclamé par une foule en liesse. Libéré, délivré. Pardon, je me suis lâché. Les Marseillais laissent éclater leur joie.
Et ça, c'est très bien raconté dans le film. Chaque jour, débarquaient entre 5 et 10 000 GIs américains. Ensuite, ils ont créé un grand camp sur le bateau de Calas. Et bien, en 1945, là, il y avait presque une ville américaine, une ville de tentes avec quelques bâtiments en dur. Et il y avait 100 000 GIs qui étaient là en permanence, qui arrivaient de Marseille, qui restaient 15 jours, s'entraînaient, se reposaient et partaient sur le front. Quand ils avaient fini leur temps de guerre, ils revenaient à Calas se reposer. Ceux qui avaient de la chance, ils rentraient chez eux aux États-Unis. Sinon, les autres repartaient dans le Pacifique jusqu'à la victoire américaine et la capitulation du Japon. Donc, entre fin 44 et début 46, il y a plus de 2 millions d'Américains qui sont passés au camp de Calas. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement oublié. Et aujourd'hui, il n'y a presque plus de traces là-bas. Vous retrouverez dans le film des images inédites de ces périodes-là. Et c'est ça qui a été fou dans ces recherches, c'est qu'on a redécouvert toute cette histoire. à Marseille se tenait toute l'administration américaine, dans les lycées, dans les grands hôtels, dans les lieux administratifs de Marseille. Et de là, ils ont administré l'armée américaine en Europe. Et c'est-à-dire qu'ils géraient tous les flux de matériaux, les flux de nourriture, les flux d'hommes. Et ça, on l'a oublié aussi, ça se passait à Marseille. Et tous ces militaires qui étaient là, eh ben, ils avaient besoin de se distraire pendant 15 jours où ils étaient là. Et donc Marseille était une ville pour eux de permission. Et donc ils venaient tous les jours à Marseille, la Canebière grouillée de GI. C'est-à-dire que les Marseillais, certains témoignent que sur la Canebière, il pouvait y avoir plus d'Américains que de Français.
Il y avait un bar, le Pink Elephant, en bas de la rue principale qu'ils appellent la Canebière. Nous, on disait « can of beer », canette de bière.
Il y avait sur la Canebière deux cafés qui étaient réservés à l'armée américaine.
Dans ce bar, il y avait un orchestre de soldats américains qui jouait les airs qu'on aimait et les derniers morceaux de jazz.
Et ça jouait du jazz, il y avait des boîtes américaines, des cafés américains, un cinéma américain. Donc il y avait beaucoup d'échanges, les Américains essayaient d'aider la population, d'organiser des distributions de nourriture, et ils organisaient des événements, des bals, etc.
Il y a eu un concert de musique classique, mais joué par un orchestre militaire, au stade Vélodrome de l'époque, et qui avait rassemblé 15 000 spectateurs.
On parle aussi un petit peu de l'OM aussi, du vieux stade Vélodrome, etc., puisqu'il s'est passé des choses. Ça va jusqu'au baseball.
Ils ont organisé, par exemple, au stade Vélodrome, une grande démonstration de leur sport à eux, le baseball. Et ça, c'est incroyable.
Là, on ne peut pas tout dire hein, dans l'émission, mais il y a aussi le marché noir, il y a aussi tous les échanges qui se sont produits entre les Marseillais et les Américains.
Et les Marseillaises, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a eu beaucoup d'histoires d'amour. Et ça, on en a retrouvé quelques-unes.
On rencontrait pas mal de filles françaises. Les Marseillaises, c'était quelque chose.
Beaucoup de Marseillaises sont parties avec des GIs et se sont installées aux États-Unis. Beaucoup sont revenues aussi quelques années plus tard. Hein. Toutes ne sont pas restées là-bas.
Le film, il y a quatre parties. Marseille et les Américains, c'est un film sérieux avec des petites pointes d'humour comme on peut le vivre tous les jours.
Donc oui, le film a été découpé en quatre parties. C'est un film d'histoire destiné à être projeté dans les classes par les profs d'histoire géo ou les profs d'anglais parce qu'il y a aussi une version anglaise. Donc c'est un film sérieux, très bien documenté et très juste historiquement. Mais il y a des touches d'humour. Je pense qu'un bon prof, c'est quelqu'un qui sait capter l'attention de ses élèves. À Marseille, on aime dire on met le why.
Oh, ils ont mis le why.
Ou on aime parler de l'OM. Et bien, dans le film, j'ai essayé de faire tout ça pour que ça parle à tout le monde.
Pour préciser, le film, il a été projeté en avant-première avec le consul, avec tous les gens qui ont participé. On va pouvoir voir le film où ?
Donc, la plupart des projections vont avoir lieu au lycée Montgrand, au lycée Longchamp. Donc, il y a déjà des profs qui s'en sont emparés, et tant mieux, c'est un outil pour eux. De nombreuses projections seront organisées avec Canopée, qui a son lieu boulevard d'Athènes, qui est le lieu de la Cinémathèque de Marseille. Donc, il y a une salle de cinéma, et beaucoup de projections seront organisées là-bas pour tous les collèges et lycées et groupes qui n'ont pas leur propre salle. C'est intéressant que ça soit dans ce lieu-là, parce que c'est l'ancien hôtel Splendid, on en parle dans le film, où s'est installé un héros de cette période, un héros américain, qui s'appelle Varian Fry, qui a contribué à faire s'exiler aux États-Unis de nombreuses personnalités du monde de l'art, de la culture, des écrivains et des intellectuels anti-nazis.
Au-delà de ces projections, on peut aller sur Internet, il y a un site consultable où on peut voir ces quatre épisodes.
Sur le site a7productions.com. Il suffit de cliquer sur ce site et de choisir Marseille et les Américains en version anglaise ou en version française.
On aurait oublié quelque chose ou pas ?
On ne peut pas tout raconter, il y a cette anecdote fabuleuse du joueur de baseball, mais vous la verrez dans le film.
Une musique marquante du film.
On a mis du Glenn Miller parce que c'est le plus connu. C'était un soldat américain qui a animé une troupe qui a fait les morceaux les plus célèbres qu'on va entendre maintenant. Mais j'ai surtout tenu à mettre les Andrew Sisters, qui étaient trois filles américaines et qui, pareil, ont chanté spécialement pour les GIs, ont enregistré spécialement des morceaux pour les GIs. Elles font notamment un boogie-woogie qui nous sert à terminer le film, qui est très énergique, et j'avais envie de terminer le film sur cette note dansante.
Merci Mathieu.
Eh ben, c'est un plaisir pour moi, et c'est surtout un plaisir de savoir que le film va être diffusé dans beaucoup de classes et donc va toucher son public et va rappeler ce qui s'est passé à cette époque.
On va s'en faire l'écho dans Plugging. Merci.
Merci à vous. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar is playing with him. He makes the company jump when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. He was a boogie woogie bugle boy of Company B. Le documentaire pédagogique « Marseille et les Américains 1939-1945 » est disponible pour les enseignants gratuitement, en version française ou en version anglaise, depuis la rentrée 2020, afin de permettre des interventions dans les classes en français ou en anglais. Pour ceux qui ont depuis longtemps quitté l'école, le documentaire pédagogique « Marseille et les Américains 1939-1945 » réalisé par Mathieu Verdeil chez Asset Productions, en partenariat avec le Consulat général des États-Unis à Marseille, est disponible gratuitement en ligne sur Vimeo. Voilà, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un plugin avec des news, interviews et concerts. Et n'oubliez pas, au troisième millénaire, tout reste à faire. Plugin.
Retrouvez Plugin chaque semaine le mercredi à 10h, rediffusion le jeudi à 17h. Plugin, une production plateauradio.com.